radio, c'est votre web radio.
Etaradio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Faire le tour de la terre. Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Je croyais que tu voulais pas démarrer, Nicolas.
Non, je fais un peu de la poursuite. Tu sais, on a vu la piste hier soir, donc j'attends un petit peu pour m'élancer. Faut que je m'élance quand même, c'est pas facile. Lundi 8 juin, le dernier gros mois de Radio Vélo avant la coupure et la suite peut-être des aventures, avec grosse actualité cycliste, beaucoup d'invités. Julien, bienvenue.
Bonsoir à toutes et à tous.
On a également Seb.
Bonsoir à toutes et à tous.
Qui est de la partie, et l'ami Max qui vient dans quelques instants. Il revient d'où, Max, du championnat?
Et il revient du championnat Pays de la Loire, qui se déroulait dans une certaine contrée qu'il nous racontera tout à l'heure.
Il nous dira, parce que c'était les championnats régionaux.
Week-end de championnat régional. Donc week-end de course très particulière, parce qu'un championnat régional, c'est toujours une course très particulière.
On aura plusieurs invités aujourd'hui. On aura notamment Loïc Bouchereau, le champion des Pays de la Loire. On aura également un petit à côté avec Emmanuel Chazalet, le responsable de la communication d'AG2R, qui nous parlera de l'application Vivons Vélo qui est sortie cette semaine. Et puis on parlera avec Claire Bricogne et bien du record de l'heure de Bradley Wiggins. On parlera du Dauphiné, mais avant cela, les championnats régionaux avec donc en Midi-Pyrénées. Julien, tu y étais? C'était à la ville de Lomagne, c'est ça?
Et c'était à la ville de Lomagne, donc organisé pour la... On avait eu Max Carcy la semaine dernière qui nous décrivait ce parcours un peu plus facile que les années précédentes. Et donc, la ville de Lomagne, dans le département du 82, Tarn-et-Garonne, circuit donc beaucoup plus facile que les années précédentes, comme je le disais. Malgré ça, les coureurs ont fait une très très belle course, ça a roulé très très vite dès le départ. La course s'est rapidement décantée. Il y avait, et on peut le regretter, que 42 coureurs au départ, première, deuxième et espoir. Ça fait quand même un sacré petit peloton. Il y avait aussi très peu de coureurs le matin en troisième catégorie pas cyclisme. 40 coureurs dans ces deux catégories-là. Ça fait vraiment. On peut se poser des questions à savoir où on a le vélo, parce que ça fait vraiment des petits pelotons. Quand on voit dans d'autres régions où il y a beaucoup plus de coureurs que ça, il y avait 90 ou 100 coureurs. Ben dans le comité, on n'est pas gâté, quoi.
Et pourtant, il y a des coureurs quand même dans le comité.
Et il y a bien des coureurs.
Et pourtant, il y a des coureurs.
On va y revenir. En tout cas, nous avons le vainqueur de ce championnat régional.
Régional Midi-Pyrénées à la Vite. Donc Mathieu Malbert, comment ça va?
Ah, ça va.
Bien récupéré depuis hier?
Oui, j'ai bien récupéré, j'ai roulé tranquillement aujourd'hui.
Donc pour revenir un petit peu sur cette course, c'est vrai que on s'attendait vraiment à un match entre les coureurs de l'Occitane, qui étaient coureurs de Mazamé, de Castelsarrasin, Albi. Le match, bien sûr, des Montalbanais, parce que Montauban qui est organisé, donc comment ne pas penser que les coureurs de Montauban n'allaient pas faire la course. Et bien sûr, Blagnac Vélosport, une échappée qui a mis un petit peu de temps à se faire. Puis bon, la course a été très vite décantée, au bout de 40 km, c'était quasiment déjà fait. Et après, vous vous retrouvez dans un groupe de 13-14 coureurs avec 6 Montalbanais. Vous étiez 4 vous à ce moment-là de mémoire. Il y avait 2 coureurs d'Albi, un coureur de Mazamé et de Café Sarrazin. À ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête?
C'était assez compliqué vu qu'il y avait Montauban qui était en surnom et l'échappée ne s'entendait pas. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment de ne pas se faire piéger. On y allait un tour chacun. On était trois notamment avec Johan Verardo et Romain Campitrou assez bien à pouvoir vraiment faire la course.
Alors, est-ce que c'était un match contre les coureurs de Montauban où il y avait aussi le match contre, on va dire, Stéphane Pouyès, parce que sortant vainqueur son temps du Tour de Gironde, bien sûr qu'il fallait le marquer. C'était quand même compliqué quand même de tout gérer.
Oui, Stéphane Pouyès, ben, il fallait pas l'emmener. C'était notre, enfin, on ne devait pas arriver avec lui au sprint, donc il fallait le piéger. C'est ce qu'on a réussi à faire ben, à trois tours de l'arrivée, en partant avec les deux de Montauban.
Donc voilà, donc tu t'en vas avec avec Sébastien Pillon et j'ai perdu son nom. Le coureur de retour. Qui c'est, pardon?
Kevin Hamel.
Oui, voilà. Kevin. Ouais, tout à fait. Voilà, je cherchais le nom. Donc vous partez, donc ça laisse partir derrière, ça fait le tempo et donc tu te retrouves seul contre deux. Donc on peut penser qu'à deux coureurs. Déjà qu'auparavant, on voyait que Montauban n'avait pas très bien manœuvré, puisqu'il y avait un coup, une contre-attaque derrière. Et en fait, les coureurs de Montauban roulaient partout. Donc, on sentait déjà un petit peu la mésentente d'un petit peu de cette formation-là. Et c'est vrai que bon, vous êtes parti. Ils n'ont pas arrêté à l'amorce du dernier tour. Ils n'ont pas arrêté d'attaquer à l'un à l'autre. Jusqu'à qu'au passage sur la ligne, tu rentres, toi, tu fasses l'effort pour rentrer. Et tu mets un contre aussitôt pour prendre quelques mètres et jamais lâcher jusqu'à l'arrivée.
Oui, ils ont. Ben, juste avant que je parte avec les deux de Montauban, on était 7, dont 2 de Montauban aussi, 3 de Blagnac et 3 de l'Occitane. Et derrière, c'est Montauban qui a roulé, alors qu'il roulait aussi devant.
Exactement.
Oui, mais voilà. Et après, ben, au début, on est parti qu'à 2 avec Kevin Hamel, et après, il a arrêté de rouler pour attendre son coéquipier. Donc, on était 3. 2 de Montauban, moi, c'était assez compliqué parce que. Enfin, Blagnac, c'était vraiment l'objectif, c'était de gagner. On est un des plus gros clubs de Midi-Pyrénées, donc c'est pas la deuxième place qui était importante pour nous. Donc je savais pas trop quoi faire. J'ai roulé pour éviter qu'il m'attaque pendant un tour. J'ai vu qu'on avait une avance assez confortable, donc j'ai arrêté de collaborer à l'avance à deux tours de l'arrivée. Et ils ont commencé à m'attaquer dans la deuxième partie du tour. Sur les pressions montantes, sur les attaques, je sentais que j'étais assez bien et qu'ils commençaient à être fatigués, donc j'ai contré sur la ligne. Je savais que je pouvais les tenir pendant 10 km.
Bah justement, oui.
Non, c'est vrai que je vois les réactions de certains coureurs, dont Rémi Benarfa qui dit superbe course de Montauban, on peut le dire. C'est vrai que justement, dans à peu près à 2 km de l'arrivée, quand il y a cette fameuse petite côte en palier là, qui est très large, c'est vrai qu'on voit Sébastien Pillon derrière un petit peu à la peine. Donc je me dis à ce moment-là, ben, finalement, du 2 contre 1, ça va se faire à 1 contre 1. Mais en fait, il arrive à rentrer, à rattaquer derrière pour te fatiguer. Puis je te vois très très bien. Chaque fois très bien répondre de suite calé dans les roues et après c'est vrai que j'ai été agréablement surpris quand je t'ai vu justement quasiment sur la ligne faire l'effort de rentrer et aussitôt attaquer et rien lâcher parce qu'après t'as rien lâché, c'est fait seconde par seconde.
Non, mais je voyais que quand j'allais chercher quand il m'attaquait un par un, déjà à chaque fois avant chaque attaque il me laissait récupérer 40 secondes c'est plus aussi dur pour moi finalement parce qu'il y en avait un qui attaquait, on récupérait 40 secondes, il y en avait un autre qui attaquait, donc c'était plus simple. Et je voyais que quand je répondais aux attaques, ben, le deuxième qui n'avait pas attaqué, il avait du mal à tenir ma roue. Et quand je suis revenu sur Pillon sur la ligne, j'ai vu que son coéquipier avait quelques mètres de retard sur moi, donc je l'ai de suite contré. Après j'ai fait le trou de suite, j'ai pris 15 secondes et après j'ai géré mon avance finalement jusqu'à l'arrivée.
T'es resté.
Il fallait pas coincer, donc voilà.
T'es resté un bon moment, Mathieu. T'es resté à 8-10 secondes. Moi, je faisais les chronos entre vous, entre toi et les deux coureurs. 8-10, et ça lâchait rien. Et derrière, ils roulaient. Pourtant, ils étaient à 2 contre 1. Sacrément costaud dans le final sur un circuit qui était très usant avec cette chaleur qui était très pesante aussi. Fallait être capable de faire cet effort-là sur le final, quoi.
Justement, est-ce que c'était dans ton esprit d'être peut-être le champion Midi-Pyrénées hier matin? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie, que tu imaginais cela ou pas?
Ben, j'y pensais, c'est sûr, j'étais assez bien. Après, c'est une course spéciale. Et puis, vu qu'on est une équipe forte, on peut pas toujours... si la course était mal passée pour moi, j'aurais pas pu être devant. Par exemple, s'il y avait d'autres coureurs de Blagnac dans la bonne échappée, je pouvais pas forcément essayer de revenir derrière et je me serais fait piéger... comme ça.
Et justement, mais j'ai pu lire chez nos amis là de Direct Vélo que ben c'est vrai que ton début de saison n'avait pas été forcément comme tu l'entendais. Je crois aussi me souvenir qu'on t'avait vu sur les routes de la Ronde de l'Isard, hein, où nous étions les 4 jours avec l'équipe de Radio Vélo. Qu'est-ce que tu en retiens de cette Ronde de l'Isard? C'est un rendez-vous important également pour un cycliste amateur comme toi. Qu'est-ce que t'en as retenu?
Alors, en désert, c'était compliqué. Je sortais des... Ça a commencé le jeudi et mes partiels, ça a été terminé le mardi. J'ai pas pu... J'ai senti que ça allait pas, donc j'ai... Ça, c'était compliqué, la ronde de l'Isard. Sur la dernière étape, j'étais assez bien, j'étais dans l'échappée. Après, j'ai eu un problème de vélo dans le deuxième col qui m'a contraint à rétrograder. J'ai dû changer de vélo et tout ça, donc voilà.
Oui, c'est surtout que tu fais l'effort pour rentrer sur les deux premiers dans ce port de l'Erse au début. Et c'est vrai que sans peut-être cet incident mécanique, tu te voyais possible faire cette fin d'ascension avec ces deux coureurs de devant.
Oui, pour moi. Oui, j'étais très bien dans le col précédent. Donc c'est pour ça, j'ai vu que ça s'entendait pas trop dans le groupe, j'ai décidé de faire l'effort mais sur le sommet du col et dans la descente. J'ai réussi à rentrer au pied du port de l'air, c'est pour j'étais bien avec les deux autres coureurs, mais j'ai eu ce problème au vélo qui me voilà.
Une autre question pour Mathieu Balbert, oui, avant de le remercier.
Mathieu, justement, donc tu disais que cette ronde de l'Isard qui tombait pas forcément très bien dans ton planning puisque c'était juste après tes partiels, est-ce que tu penses quand même que ça t'a permis justement d'avoir la poignée hier et ce stage, si je peux dire, entre guillemets, à la ronde de l'Isard, t'a permis d'accumuler les kilomètres, le rythme et justement d'être en forme hier?
C'est sûr, la ronde de l'Isard, c'est un très bon entraînement vu que il y a des kilomètres et il y a des cols, donc on finit tout le temps fatigué de cette course. Après, j'ai pas couru depuis la ronde de l'Isard, donc j'ai pu bien récupérer et ça a payé hier.
Ouais, ben félicitations et quels vont être tes objectifs maintenant avec ce maillot à porter sur tes épaules?
Je vais faire le maximum dès ce week-end au Tour d'Arrelor, même si j'aurai pas le maillot sur les épaules. Je vais essayer de rapporter des points pour la Coupe de France DN1 au club de Blagnac et après j'irai au Tour des Pays de Savoie où on verra avec l'école une meilleure préparation ce que ça peut donner.
Bon, et bien on va suivre tout ça et ça terminera le mois de juin au championnat de France.
Voilà, le championnat de France et Marais-Verteillac sûrement.
Bon, ben, un beau programme, on va suivre ça de près de ton côté, Mathieu Malbert. Merci d'être passé dans Radio Vélo, Mathieu.
De rien, au revoir.
À bientôt.
Merci, bonne chance, ciao.
À bientôt. À bientôt. Et donc, c'était Mathieu Malbert en direct dans Radio Vélo. On accueille Max.
J'ai même pas allumé le micro, Max. Il arrive en retard, là.
1, 2, 1, 2. Salut.
1, 2. Bienvenue à la radio.
Je suis comme un balai aujourd'hui.
Quand je vois tes bras, il a dû faire beau hier. Hein.
Il a fait chaud aussi.
Il a fait chaud partout.
Il a fait chaud.
Là, Sébastien.
Et c'est vrai qu'hier, il a fait une chaleur.
On sait que c'est embrosé, Sébastien.
Il a fait une chaleur.
Il est tous les 4 matins en stage en Espagne. Alors que veux-tu?
Il a fait une chaleur épouvantable hier sur ce championnat à la vite. Le parcours était beaucoup moins difficile que l'année dernière. Cela dit, usant par ce petit bosse faux plan, on va dire, et puis cette chaleur, il a fait une chaleur avec du vent hier terrible. C'est pas forcément le meilleur qui gagne de Blagnac, sans tension, d'évaluer la performance de Mathieu. Mais c'est vrai qu'il y avait des coureurs qui étaient physiquement beaucoup plus forts, mais justement, c'est ce qui a fait que la course a été plus belle parce que la partie tactique a joué davantage que si ça avait été que du physique. Et ben les Blagnacais ont bien manœuvré parce que à 1 km de la ligne, ils sont, lui il est en tête et les deux Montalbanais font 2 et 3 à 1 km de la ligne. Et 1 km après, ben ils font 1, 2, 3 quoi. Ils ont sacrément bien manœuvré. C'est vrai que derrière, aussi bien Romain Campistrou que Johan Verardo étaient très très costauds. Ils sont revenus comme des boulets de canon. Et malheureusement pour le coureur de Montauban, ben cuillère de bois.
Ça, c'était donc pour le championnat Midi-Pyrénées, bien sûr, le championnat où Radio Vélo était présent. Il y avait également d'autres championnats, notamment celui des Pays de la Loire, où Radio Vélo était présent par coureur interposé, hein, Max, si je puis dire. Et nous avons justement au téléphone quelqu'un qui est quand même de la région de Radio Vélo, on va dire. C'est Loïc Bouchereau, le nouveau champion des Pays de la Loire, qui l'a remporté donc hier cette course. Eh bien, avec le maillot de Vendée-U, Loïc, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends, ouais, bonjour.
Salut Loïc, félicitations pour cette consécration quand même, je vais dire ça comme ça, bien méritée quand même.
Ben ouais, je suis assez content. Bon, j'ai pas gagné, depuis que je suis arrivé chez Espoir, j'avais pas gagné de course, donc je suis quand même content de gagner. Puis un titre, c'est toujours bien plaisant de gagner, quoi.
Course très particulière quand même. C'est vrai que les Vendéens ont toujours à cœur de briller sur ce championnat. L'an dernier, il y avait deux coureurs déjà sur le podium. Cette année, deux coureurs aussi. Au départ, il y avait déjà une tactique prédéfinie pour des coureurs déjà ciblés pour le podium, ou c'était à celui qui était le mieux d'être devant?
Au Vendée-U, on n'a pas vraiment de leader, donc on court vraiment pour être en surnombre devant, et après on fait la course en fonction de ça. Donc je me suis retrouvé devant et je suis parti après à 20 km de l'arrivée. J'ai résisté. Derrière, ils ont fait un frein comme on était en surnombre et je suis allé m'imposer, quoi.
Ça a l'air facile comme ça, t'entends parler. T'es sorti là, bim, t'as mis tout à droite, gaz. Mais ça a dû rouler sacrément quand même.
On est quand même 90 premières. Il y a quand même un bon niveau en Pays de la Loire. Même si le Vendée-U domine, il y a quand même Nantes aussi en DN1, il y a Cholet. Il y a quand même des belles équipes et il fallait quand même le faire. Après le Vendée-U, on a de la confiance, donc fallait qu'on gagne, quoi. Et j'ai réussi à le faire, mais c'est bien, quoi.
On a également autour de cette table Max Massad qui est chroniqueur à Radio Vélo et qui a été embarqué lui aussi sur son vélo pour cette épreuve qui réunissait quand même tout le gratin des engagés du Pays de Loire. Max, comment t'as vu la journée et comment t'as vu Loïc de loin a priori?
Sur le ressenti de Loïc, moi c'est vrai qu'il dit pas grand chose, il est très modeste. Calme, ouais, modeste, tout ça. Mais moi, je me rappelle avoir parlé avec lui à un moment donné dans le peloton, parce que le coup est parti tout d'entrée. Ils se sont retrouvés une vingtaine devant, avec une minute, une trente d'avance. Et on s'est dit, c'est sûrement plié, parce que toutes les équipes étaient représentées devant. Mais sauf que je lui ai dit, entre guillemets, ça va pas débander de la journée. Donc on les aura toujours une minute, une trente, et à un moment donné, ça risque de revenir. Et c'est vrai qu'un tour après qu'on ait parlé, il me semble que ça a fait la bataille. Et on s'est retrouvé à une vingtaine en contre, et puis après ça a recassé, et lui il est sorti avec je crois 5 coureurs, dont 3 devant DU, donc ils se sont mis à planche pour rentrer, et c'est vrai qu'ils sont rentrés, et après de là il a réussi à ressortir devant. Donc déjà il fallait boucher l'écart, en sachant que devant ils étaient quand même pas mal cramés d'avoir passé la majeure partie de la course devant. Donc après il fallait quand même ressortir seul pour aller au bout. Bon, c'est sûr que Vendée-U, comme il dit, ils sont quand même en surnombre, ils sont un peu au-dessus, donc c'est plus facile à gérer, mais c'est quand même, même si t'es en surnombre, c'est quand même pas évident d'aller la gagner, et encore de faire un et deux au podium. Donc une très belle course tactique de leur part. Après derrière, les Nantais, tout ça, nous on a fait ce qu'on a pu, mais bon, jusqu'à maintenant ils dominent quand même.
Vendée-U domine. Loïc, tu veux réagir au propos de Max?
La course c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc après moi je suis rentré dans un groupe, on était 7 je crois dans le 3 du Vendée-U, donc on était encore plus en surnom. Puis 19 de devant, du coup le Vendée-U a pas roulé, donc ils ont commencé à s'attaquer, à s'user. Donc après quand je suis rentré, j'ai vu il y avait une seule petite bosse dans le circuit, je suis sorti là et puis voilà quoi, ça l'a fait.
Quand tu étais licencié à Midi-Pyrénées, tu avais participé déjà à des championnats régionaux. Au niveau de, je crois que c'est le premier que tu fais du côté des Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'il y a de différent, peut-être plus d'engouement autour de la course, autour de la route tout simplement, derrière les barrières? Est-ce qu'il y avait un peu plus de monde et puis on imagine plus de coureurs au départ, c'est ça?
Oui, c'est ça, déjà juste, on a 90 premières, en Midi-Pyrénées, il n'y a que 40 coureurs, je crois, en première et deuxième. Donc il y a aussi beaucoup plus de public. Après en Midi-Pyrénées il y a quand même un bon niveau, c'est toujours les plus forts devant avec des circuits durs, mais bon, voilà quoi. C'est sûr qu'en Pays de la Loire c'est plus un pays du vélo qu'en Midi-Pyrénées, mais bon après les dirigeants même en Midi-Pyrénées sont bien, il n'y a pas de soucis là-dessus, il y a pas. Donc il y a plus de monde quoi.
D'accord, plus de monde sur le bord des routes, c'est ce que dit Max régulièrement.
Mais pour rebondir, oui, c'est en Midi-Pyrénées, il y a quand même 2-3 coureurs qui sont vraiment forts, qui sont au niveau. Mais sauf que derrière, ça ne suit pas en fait. Il y a vraiment une grosse différence. Et c'est là où en Pays de Loire, tu en as une vingtaine qui sont au même niveau. Donc du coup, la bagarre est plus difficile et plus longue. Mais ça n'empêche pas que le niveau Midi-Pyrénées est bon. Sauf qu'il est bon sur les 3, 4, 5 premiers. Quoi. Après, derrière, il y a vraiment une grosse différence parce qu'on a un manque de coureurs, c'est sûr. Mais bon, on voit quand même aujourd'hui qu'hier, il y avait quand même 3 sudistes dans la course, que ce soit Calmejean, Bouchereau et moi-même. On est présent, quoi. On était sur la course, donc ça, d'une région à une autre, voilà, c'est quand même un peu partout.
Bravo les sudistes, en tout cas, on est fiers de vous. Loïc, voilà, on voulait te faire un petit clin d'œil, peut-être la suite du programme, parce qu'on t'avait suivi bien à l'œuvre sur la Ronde de l'Isard, performant hier avec ce titre. C'est quoi la suite jusqu'à la fin du mois de juin?
Je vais faire la Ronde de l'Oise en classe 2, et après, je vais faire la Sport Brace. Et après, bon, je suis pas sûr de faire encore le championnat de France, parce qu'il y a quand même un gros niveau vendu. Bon, il y a des chances que je le fasse, on verra si je suis pris ou pas. Et...
D'accord, voilà. Parce que donc le Vendée U est limité à un certain nombre de coureurs, c'est ça?
Il n'y a que 6 coureurs, pas DN1, et donc voilà.
Ok, bon, mais on va suivre ça en tout cas, Loïc, on te suit de près. Max, oui, tu voulais rajouter?
Non, mais enfin, vu le parcours du championnat de France, c'est vrai que la petite bosse difficile conviendrait bien à Loïc, parce que quand il dit qu'hier c'était une petite bosse, bon, pour des gars comme moi, c'était une bosse qui était assez dure. Mais non, ouais, ça serait dommage qu'il ne soit pas dans l'équipe, et bon, surtout, je souhaite pour lui que ça se passe pas un peu comme Valentin Dufour en dernier, qui était champion régional, enfin, je dis pas que c'est mal qu'il a terminé à Blagnac, mais qu'ils l'ont pas conservé au Vendée U. Comme j'ai dit un peu hier à Loïc, t'as le maillot, il faut que l'an prochain tu puisses le porter, quoi, que tu sois pour autre part.
Bah, il n'y a pas de raison, en tout cas, du côté de Loïc.
C'est ce qu'on lui souhaite.
Ça avance bien, c'est ce qu'on lui souhaite. Raison. Merci Loïc d'avoir pris quelques minutes pour passer dans Radio Vélo.
Merci à vous, bonne soirée.
À bientôt.
Merci, ciao.
Bonne soirée.
Allez, au revoir.
Au revoir. Et c'est l'heure de la petite coupure pub, messieurs, et puis on revient tout de suite après pour parler d'une petite application. On reviendra sur les championnats, ne bougez pas. À tout de suite.
TFR Radio,
pop,
rock,
sport.
TFR Radio,
pop,
rock,
sport.
En roue libre et bien sûr sans les freins, Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Qu'est-ce qu'on fait, on y revient, Nico, quoi?
Eh oui,
championnat régional, c'est bien, mais...
On parlait des championnats régionaux avec Mathieu Malbert, le champion Midi-Pyrénées, avec Loïc Bouchereau, le champion des Pays de Loire, et avant de revenir sur les étapes du Dauphiné, mais également du record de l'heure de Bradley Wiggins, on voulait faire un petit crochet vers l'une des sorties de la semaine du côté des petites applications, du matériel. C'est l'application gratuite baptisée Vivons Vélo qu'a sorti AG2R La Mondiale, et nous avons pour en parler le responsable de la communication externe d'AG2R La Mondiale, Emmanuel Chazalet. Emmanuel, est-ce que vous nous entendez?
Oui, très bien, bonsoir à tous.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo, Julien.
Ouais, bonsoir. J'étais bien sûr de suite quand j'ai reçu le lien à télécharger l'application, et puis j'avais un petit entraînement à faire avec mes gamins. On est parti, j'ai mis ça en route. Donc je vous laisse présenter cette application mieux que vous, personne pour la présenter.
Alors l'objectif de l'application, c'est en fait de promouvoir le vélo et la pratique du vélo comme un sport pour entretenir sa forme et sa santé. Donc c'est une application qui est en effet entièrement gratuite et qui propose du coaching, c'est-à-dire que c'est l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale et puis tout le staff, que ce soit les médecins, les kinés, les entraîneurs, prodigue tout un tas de conseils pour permettre de se mettre, de se remettre au vélo par palier relativement facile à atteindre. Donc on est vraiment sur du conseil généraliste, grand public, c'est le conseil des pros au service du grand public.
En plus, je vois qu'il y a une rubrique conseil santé, où il y a les règles de bonne conduite à vélo, les bienfaits, le choix du matériel. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment, je veux dire, tout ce que toute personne qui commence à faire du vélo devrait un petit peu savoir, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Oui. Comme vous le dites, il y a trois niveaux de coaching pour apprendre à faire du vélo, ou apprendre à performer, ou à faire de meilleures performances. Il y a en tout une centaine de programmes au total. Et puis, en effet, il y a des conseils prévention santé pour avoir les bons réflexes. Par exemple, lorsqu'on sort avec ses enfants sur la route, c'est comment on se place sur la route pour faire du vélo en toute sécurité. Il y a comment on fait pour choisir le bon équipement, comment on fait pour avoir... Il y a des conseils sur la nutrition, sur la récupération. Enfin, beaucoup de conseils très pratiques pour, encore une fois, faire du vélo dans les meilleures conditions.
D'accord. Et on a donc, si j'ai bien compris, donc on accumule des kilomètres, tout ça pour, on va dire pour la recherche contre les maladies neurodégénératives, si je dis bien le mot, Alzheimer, Parkinson, etc.
Exactement. En fait, nous sommes un groupe dont l'expertise c'est la santé, et nous souhaitons en plus encourager la prévention santé, la forme pour tous. C'est que les kilomètres qui sont parcourus par l'ensemble des personnes qui ont l'application, eh bien, ça va alimenter un compteur de kilomètres. Et plus le compteur ira loin, et plus on donnera de dons pour soutenir la recherche de l'Institut Pasteur contre les maladies, notamment celles liées au cerveau.
Actuellement, 1271 kilomètres de parcourus depuis le lancement de l'application.
Exactement, et on l'a lancé pour l'instant très peu. On attend de développer encore d'autres fonctionnalités. Ce qu'on a prévu de faire, c'est de mettre en place tout un programme de rewarding, c'est-à-dire de récompenser les utilisateurs, pas tant par rapport à leur performance, mais par rapport à leur assiduité. Et puis il y aura une deuxième série de fonctionnalités, là beaucoup plus communautaire. Hein, aujourd'hui, on peut s'évaluer par rapport à ses amis Facebook, si on se connecte avec Facebook, avec Twitter ou avec Instagram. Mais demain, on pourra identifier tous les personnes qui ont l'appli Vivons Vélo pour faire des sorties à vélo avec d'autres personnes.
D'accord. Est-ce que au niveau de l'appli, bon, elle est, pour l'instant, elle est, je vais pas dire qu'elle est simpliste, mais on a voilà le kilométrage parcouru, le nombre de sorties vélo. Est-ce qu'il est prévu qu'elle se développe pour qu'on ait comme d'autres applis, avoir la fréquence cardiaque ou des éléments comme ça?
Pas aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'est parce qu'il existe déjà d'autres applis pour les cyclistes. L'idée, c'est pas de sortir une application qui soit pour les cyclistes de haut niveau ou les sportifs vraiment bien rodés. Mais en revanche, ce que l'on souhaite, c'est promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, hein, il y a entre 20 et 25 millions de personnes en France qui pratiquent le vélo pour aller au bureau, pour sortir avec sa famille, mais aussi pour faire un peu de sport. L'idée, c'est vraiment d'encourager cette pratique, qu'elle soit encore plus populaire, pour promouvoir la prévention santé. Donc aujourd'hui, on se positionne sur des services grand public avec beaucoup de services communautaires. Et puis ce qu'on va lancer également, c'est cette semaine, une communauté sur Facebook Vivons Vélo. L'idée, c'est qu'on va créer des rendez-vous partout en France pour que les personnes se rencontrent et fassent du vélo ensemble. Donc on est vraiment dans une démarche loisir, une démarche plaisir pour soutenir la recherche de l'Institut Pasteur. En gros, Vivons Vélo, c'est se faire du bien pour sa santé et faire du bien en soutenant la recherche.
Donc t'as compris, il faut que tu te remettes en BNCR.
Je vais m'y mettre pour pouvoir se comparer, c'est ça?
Non, mais voilà, comme il dit, ça fait avancer la recherche.
C'est en tout cas une très très belle initiative. Max?
Ouais, c'est vrai que quand j'étais chargé, comme j'ai dit tout à l'heure hors antenne, j'ai pas trop accroché. Et puis là, avec les plus d'explications comme ça, ben demain, moi j'ai 50-50 à faire pour aller au boulot, donc sans borne, ben je vais la mettre en route, on verra bien ce que ça donne demain soir. Mais ouais, moi je me dis qu'il y a aussi l'idée est bonne parce qu'en plus c'est pour une bonne cause. Par contre, il doit y avoir une autre idée derrière par rapport au Tour de France. Je pense à ce moment-là qui va suivre. Je pense qui va convenir avec ça. Est-ce qu'il y a une suite de prévues, je sais pas, par rapport au Tour ou après le Tour, ou enfin il doit bien y avoir quand même quelque chose autre derrière, ouais.
Bah, en fait, Vivons Vélo, on le sort maintenant parce que ce week-end, c'était la journée du vélo. Il y a le Tour de France, en effet, bientôt, dans 3 semaines maintenant. Et c'est là où on va, grâce à notre équipe, promouvoir l'application auprès du grand public tous les jours sur les étapes du Tour. Mais après, l'idée, c'est pas de s'arrêter là, c'est de vraiment s'installer dans la durée. Donc à partir du mois de septembre, on va organiser, comme je vous le disais, des événements en région. Et notamment aussi en octobre, le week-end du 10-11 octobre, parce que c'est le Pasteur Don. C'est dans ce week-end qu'on remettra les dons pour Pasteur. Et on va faire des rendez-vous Vivons Vélo partout en France. Et l'idée, c'est de construire une communauté sur le long terme. Donc c'est pas un one-shot pour le Tour de France ou pour une ou deux courses. C'est vraiment de s'inscrire dans la durée pour faire naître un élan autour du vélo, un élan vraiment populaire pour que tout le monde s'y mette ou s'y remette.
Et moi, j'ai une question un peu plus technique, savoir comment ça se passe par rapport au... Enfin, comment la transition se fait entre les kilométrages parcourus et le don qui peut être donné justement à l'association?
Alors il y a différents paliers, l'objectif c'est de franchir 4 paliers et d'ici le mois d'octobre, et puis en fond, chaque palier déclenchera un don qu'on mettra à Pasteur. Donc le premier objectif qui va être atteint assez rapidement, je pense, c'est faire le Tour de France, hein, 3000 et quelques kilomètres. Le deuxième palier, ça sera de faire le Tour de la Terre, 40 000 kilomètres. Le troisième, c'est la distance de la Terre à la Lune, 300 000 kilomètres. Et puis l'objectif ultime, on espère qu'on y sera mi-octobre, c'est d'atteindre le 1 million de kilomètres. Et à ce moment-là, donc en fonction des paliers, on mettra des dons pour Pasteur qui seront 10 000, 20 000, 30 000 ou plus de 40 000 euros. Et puis, on remettra le compteur à zéro à partir de janvier. On recommencera une année. L'idée, c'est de faire toujours plus de kilomètres pour nourrir la, pour encourager la, la recherche de l'Institut Pasteur.
C'est bon, il y a les kilomètres. Oui, Max, si vous voulez poser une question.
Non, juste, je pensais que c'était un kilomètre, un euro. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup.
Non, c'est beaucoup. Ouais.
C'est ce qu'on faisait avant, parce que l'opération
en solidaire,
c'était pendant le Tour de France. Et en effet, un kilomètre était égal à un euro. Donc on a remis l'année dernière, c'est à peu près 34 000 euros à l'Institut Pasteur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller plus loin et que ce soit encore plus populaire. Donc cette année, on a mis ça en place, ces objectifs de par palier. Et puis après, on verra comment ça prend. Et plus la communauté sera large, et encore une fois, plus on financera la recherche pour Pasteur.
Eh bien, on va suivre ça. Peut-être une question quand même autour de l'engagement d'AG2R, la mondiale, dans le cyclisme, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui commence à durer, du moins un nom qui commence à durer, parce que c'est vrai que des fois, les structures perdurent, mais changent de nom régulièrement. AG2R, la mondiale, c'est bien ancré. Bon, nous, le siège de la radio, on connaît bien le maillot de Blaise Cadry, notamment.
Blaise Cadry, Didier Chanel.
Mais les exploits aussi de Christophe Riblon, Christophe Perrault qui est monté sur le podium du Tour de France l'an dernier. C'est vrai que AG2R, la mondiale, maintenant, les Français arrivent à bien l'identifier à cette équipe de vélo. Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise, Emmanuel Chazalet, d'être dans le vélo comme ça?
Pour nous, le vélo, ça montre plusieurs choses. Ça montre d'abord notre engagement fidèle. Ça fait plus de 18 ans qu'on est aux côtés de l'équipe de Vincent Lavenue, et grâce au cyclisme et grâce à l'équipe, on a pu évidemment développer la notoriété d'AG2R, la mondiale. C'est un premier objectif, mais aussi de partager des émotions avec les publics qui nous intéressent, le grand public comme les décideurs, les dirigeants. Et grâce au vélo, on arrive à partager ces émotions, et c'est aussi grâce au sport. Donc ça nous apporte beaucoup en termes d'image, bien évidemment. Ça nous permet aussi de rencontrer nos clients, nos partenaires, nos prospects, pour notamment dans le cadre des compétitions. Et c'est très vrai pendant le Tour de France. On rencontre plus de 100 000 personnes du grand public, à peu près un millier de dirigeants d'entreprise. Et bien, c'est de parler dans le cadre, dans le contexte du cyclisme, de parler de nos relations et de ce qu'on a à faire ensemble. Donc c'est vraiment un vecteur incroyable, à la fois de communication, à la fois d'engagement, de relations. Et puis il y a un autre point, c'est que ça permet aussi en interne de fédérer les collaborateurs, parce que on est tous derrière l'équipe, et en particulier pendant le Tour de France, quand on voit, il y a eu les victoires de l'Alpe d'Huez, ou lorsque J.C. Perrault l'année dernière a gravi la deuxième marche du podium au classement individuel, ou que l'équipe AG2R, la mondiale, était première équipe au classement par équipe. Ça provoque énormément de fierté des collaborateurs, et on a envie de soutenir davantage encore Vincent Lavenue et puis ses coureurs.
Bon, on va vous remercier d'être passé dans Radio Vélo, Emmanuel Chazalet. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter, une précision ou une petite info dans les prochaines démarches peut-être?
En fait, ce que nous souhaitons maintenant, je vous dis, on vient de sortir cette application, on va l'enrichir dans les jours à venir pour lancer une deuxième version mi-juin. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'elle rencontre son public, qu'elle soit utile, qu'elle apporte plein de conseils pour, encore une fois, encourager et développer la pratique du vélo loisir en France.
Eh bien, on va vous remercier. Merci Emmanuel, Julien.
Eh bien, cliquez sur Google Play, téléchargez l'application, mettez-la en route dès que vous faites du vélo, et ça sera pour la bonne cause.
Google et Apple.
Et Apple aussi.
Merci beaucoup.
Merci Emmanuel Chazalet, à bientôt dans Radio Vélo.
Bonne soirée.
Au revoir. Et donc, voilà pour ce gros plan sur cette application gratuite.
On en sait un petit peu plus maintenant, parce que tu vois, Max, il ne savait pas pourquoi.
Tu commençais à poser des questions, là, c'était un peu le flou, là, dans le studio, où vous étiez en train de partir essayer l'application.
Non, mais demain, moi, je le mets en route.
C'est bon aussi, il va nous mettre ça en route, là, vous allez nous faire un petit concours.
Le téléphone, la batterie, ça va entre toutes les applications.
Moi, je vais le mettre sur la voiture et je vous suis.
Voilà. Ça serait bien que ça prenne les kilomètres à pied et en natation aussi.
Ça doit
plus tard.
Il y a d'autres applis qui doivent le faire, mais, ouais. Mais ils sont pas en natation, je veux dire, mais ils ont des bateaux, je crois. Hein. Je crois qu'ils sont sponsors de certaines,
oui,
de certains gros grosses compétitions.
Etc.
Voilà, je veux dire, mondial. Voilà, qui a eu cette petite idée originale. Je suis sûr que ça aurait pu à notre ami Guillaume de Cycleblog Matos Vélo, mais il n'est pas là. Il est sur les routes du Dauphiné, je crois, Critérium du Dauphiné, où il va faire des petits reportages comme d'habitude. Il nous en parlera lundi prochain. On va parler dans quelques instants du Dauphiné. On va parler également de ce record de Bradley Wiggins. Vous vouliez finir sur les championnats régionaux avant
Non, il y a des questions d'internautes qui disent que est-ce que c'est bien régional que d'avoir des coureurs du Sud-Ouest qui vont parcourir les championnats régionaux dans le Pays de la Loire ou dans notre Maintenant, ben, c'est comme ça, un coureur aujourd'hui il est libre d'aller dans le club qu'il souhaite. Par contre, c'est pas parce qu'il habite à Toulouse qu'il faut qu'il fasse le championnat de Midi-Pyrénées. S'il est licencié au club lillois, il est obligé de faire le championnat du Pas-de-Calais, donc c'est comme ça. Maintenant, voilà, les coureurs sont. Voilà, c'est. Je veux pas dire que c'est la mondialisation, mais les coureurs français ont le choix de leur club. Et en contrepartie, le jour du championnat régional, ils doivent représenter leur club et donc doivent parcourir le championnat de leur comité respectif.
Et dans le Nord, il y avait un championnat interrégional.
Interrégional, exactement.
C'est-à-dire qu'ils sont pas assez licenciés, du coup, ils regroupent.
Oh, comparé à Midi-Pyrénées, ils sont pareils. C'est juste que pour faire un plus gros peloton, un plus gros niveau, et puis peut-être. Enfin, je sais pas comment c'était par le passé, mais bon, vu que aussi le changement des régions qui est prévu dans les
années
à venir,
ça m'a fait penser à ça.
Tout ça aussi.
Hein, le champion régional l'an prochain. Et crois pas que tu vas être à une heure de moto, hein, la prochaine coup, hein, Julien. Ça se trouve, tu vas aller à Perpignan.
Si ça se trouve, j'irai. Voilà. Non, mais...
Et victoire de Benoît Danic. Hein,
et Benoît Danic qui est toujours là, qui revient d'une blessure. Il s'était fracturé la clavicule. Sacré moteur, donc sacré.
Donc l'an prochain, les champions régionaux seront les derniers de leur région.
Les champions régionaux
en 2016
seront les
oui, parce qu'en 2017 on change
les régions,
la logique, ou 2018,
ah non,
je sais
non,
plus
non c'est l'an prochain,
non, non, c'est
les régions on vote en décembre, monsieur Max.
Oh, assure, assure.
Ah, si, je fais,
ça veut dire que là
je fais des interviews des candidats,
ça va être des collecteurs les maillots alors.
Non, mais je crois que c'est après encore.
Ah non, non, Max,
je pense que la FFC serait déjà.
Je te jure qu'on.
Eh bien, on fait un pari. On fait un pari.
Bah, en tout cas, le vote pour les candidats des régionales, c'est le 6 décembre.
Ça voudrait dire que Louis Bouchereau, qui est quelqu'un du Sud, serait le dernier champion régional du Pays de Loire.
Mais je te l'annonce, Max.
Assure.
Ah, je te l'annonce.
Moi, je fais le pari.
Qui mieux que quelqu'un qui travaille à la mairie?
Attends.
Ah bon? Là, je commence à l'impression.
Je te passerai le petit journal. Je
suis en train de rouler.
Des candidats bientôt. Bien sûr, c'est le 6 décembre qu'on va voter pour les régionales, monsieur.
Bizarre qu'il n'y ait pas plus de bruit. À voir.
Pas plus de bruit, mais en tout cas, au niveau des comités régionaux de cyclisme, on n'en a pas entendu parler, en effet. Mais rassure-toi, les politiques, au niveau des régions tout court, ils n'en ont pas trop parlé.
On finit son radio.
Allez, on revient avec Jean-Jacques Bourdain dans un instant.
Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui a bien ride son bicycle?
Ben justement,
est-ce que tu penses qu'il a bien ridé?
Je vais appeler quelqu'un qui a suivi tout ça. On parle bien sûr de notre ami Bradley Wiggins.
T'as son numéro.
Je l'appelle Bradley. Là, il est en train de faire la troisième mi-temps, comme on dit là-bas. Bradley, oui, qui s'était fixé ce rendez-vous de battre le record de l'heure. Bon, c'est son défi de l'année, en plus de Paris-Roubaix, ça, c'est...
Oui, et de battre le record de l'heure, mais il voulait passer la barre des 55
km/h. Il s'était fixé 55-250.
Exactement.
Mais moi, je vais te dire quelque chose, j'ai pas pu le suivre en direct, j'ai juste regardé le résultat. Quand j'ai vu la moyenne, et qu'une semaine avant, je me suis amusé sur la petite piste qu'on a chez nous à Muret, aller faire un tour à bloc pour voir un peu 250 mètres à bloc, qu'est-ce que je pouvais faire, et que je faisais 54-55 de moyenne, je me suis dit, mais moi, sur 250 mètres, comment j'ai terminé? Qu'est-ce qu'il faut faire sur une heure, quand même? Donc là, ça doit quand même faire sa pédale sévère, quoi.
Ah ben c'est sûr que c'est un sacré entraînement. C'est voilà, ça dure sur une heure d'effort. Un contre-montre sur une heure se gère différemment parce qu'il y a des relances, des accélérations. Mais là, en fait, c'est toujours garder le même rythme, toujours le même tempo, la même position. C'est un effort qui est vraiment très très particulier à celui d'un contre-montre.
Et pour en parler, qui de mieux que quelqu'un qui a suivi l'événement tentative du record de l'heure et réussite du record de l'heure de Bradley Wiggins, c'est Claire Bricogne de l'équipe 21 et pour le coup d'Eurosport, elle a suivi ça. Non, mais c'est Claire qui.
Quelle ambiance dans le studio.
Qui a suivi ça. Hein, c'est ça, Claire.
Oui, merci. Merci beaucoup pour les applaudissements. Je ne sais pas s'ils m'étaient destinés, mais je vais penser que oui.
Oui, oui, bien sûr.
Il n'y a personne dans la rue.
Merci beaucoup. Ah, c'est sympathique. C'est cool. Non, mais oui, merci.
Alors, c'était un événement, un dispositif. Maintenant, c'est vrai que les médias se sont un petit peu pris au jeu de ce record de l'heure. Ça fait quelques fois que c'est télévisé, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est parce que la réglementation ICI a changé, je sais pas si vous en avez parlé juste avant, mais l'été dernier, en 2014, du coup, il est devenu plus accessible aux rouleurs et notamment aux spécialistes de l'effort solitaire du contre-la-montre, et du coup, les champions commencent à le tenter de plus en plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, ça a commencé par Jens Voigt en septembre, et puis depuis, bah, voilà, les télévisions aiment bien le suivre. Mais il n'y a pas que les télévisions, parce que c'est vrai qu'il y avait 6000 personnes là-bas hier, les billets ont été vendus en 7 minutes, ce qui est énorme. Et donc voilà, c'est vraiment c'est un événement à part, c'est un événement qu'on redécouvre, qu'on revit d'une autre façon. Et je pense que ça fait du bien un peu au vélo aussi d'avoir de nouveaux défis en fait.
Nouveaux défis et puis nouveaux records avec des champions. C'est vrai que c'est pas comme quand un inconnu battait le record il y a quelques années. C'est pas Andrej Sonsanka ou je ne sais qui. C'est Bradley Wiggins, c'est le charismatique leader de la Sky en 2012, Max.
Oui, tout à fait. Non, mais par rapport à son objectif des 55, je me demande qu'est-ce qui a pu bien lui manquer pour y arriver. Enfin, nous, on n'avait pas la vision de l'intérieur, mais si Claire a vu quelques petits trucs.
Ou... Ouais. Oui. Visiblement, ce serait une question de pression atmosphérique. Voilà. Peut-être qu'il n'était pas non plus au top de sa forme à ce moment-là, je ne sais pas, mais lui, visiblement, il aurait vraiment choisi ce moment-là. Parce qu'à la base c'était le moment où la pression atmosphérique était la plus faible à Londres et ça jouait, je crois qu'il pouvait perdre 500 mètres ou 1 km il me semble, enfin il pouvait y avoir cet écart là, donc je pense que ça c'est ça, et visiblement elle a pas été aussi faible qu'il le pensait hier, voilà.
Parce qu'après je me dis quand même 6000 personnes à l'intérieur, faut quand même que tout fonctionne bien là-dedans quand même, parce que quand t'es à bloc comme ça, je sais pas trop, j'ai pas vu les images, j'ai pas regardé, mais bon, ça doit être quand même sacré impressionnant tous les détails qu'il devait y avoir.
Oui, tout était millimétré, et puis lui, il avait vraiment préparé ça de façon incroyable. Il connaissait son exercice par cœur, il avait découpé ça en blocs de 12 minutes, il savait très bien ce qui allait se passer pendant les 12 minutes à chaque fois. Il restait fidèle à ce qu'il disait, et puis... vous avez dû entendre pendant le commentaire, mais c'est vrai qu'on remarquait qu'il prenait toujours un peu de hauteur... dans les lignes droites, et visiblement ça aussi c'était prévu et calculé, parce qu'ils ont fait des études pour voir comment ils pouvaient vraiment aller au plus vite, enfin voilà, c'était totalement millimétré, mais c'est pas étonnant de la part de Wiggins.
Pas étonnant, d'autant plus qu'on peut le voir sur la photo, hein. Un vélo conçu spécialement par Pinarello et Jaguar, encore un prototype
avec un braquet de 58-14 pour ceux qui connaissent, ça parle tout seul.
Claire, au niveau de ce record de l'heure, donc engouement des médias une fois de plus, on a quand même appris que Tony Martin, lui, n'allait pas s'y coller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais Wiggins, c'est aussi son personnage, j'imagine, qui plaît beaucoup aux foules.
Oui, c'est ça. Et puis même en Angleterre, hein, c'est vraiment une star là-bas. C'est pas, enfin, il a été anobli au même titre que, je sais pas, Alfred Hitchcock par exemple, vous voyez, par la reine. Donc c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il y avait pas, mieux au niveau de l'image qui véhicule du vélo. Enfin, c'était vraiment la personne la plus appropriée à mon avis pour tenter ce record-là. Même si Alex Dossett, c'est quand même, c'est un très bon rouleur. C'est celui qu'il détenait juste avant. À mon avis, c'est quand même créer un peu une identité grâce à ce record-là, encore plus à ce moment-là, mais je pense qu'il n'y avait pas mieux que Wiggins pour le tenter, ouais.
Voilà, en tout cas, record battu, pari battu, il sera peut-être dépassé plus tard. En tout cas, il n'a pas dépassé non plus le record non homologué de Chris Boardman, qui avait fait plus.
Ouais, mais ça va être quand même difficile. Bon, autant les précédents, là, ces derniers mois, qui sont tous affolés, ont toujours grappillé. Là, c'est pas un petit grappillage, quoi. C'est 1 km 500 ou 600 de plus. Ça fait un sacré bond. Va falloir quand même le chercher, quand même, Monsieur Wiggins.
Surtout maintenant, il y a plus vraiment dans la liste des coureurs actuels. Il y a plus vraiment de coureurs bons rouleurs et autant spécialistes de la piste que lui, quoi.
Et c'est ça. C'est surtout ça. C'est que c'est un effort très particulier, comme je le disais tout à l'heure. Il va y avoir quelques temps avant que quelqu'un s'y frotte.
Oui, et puis ça devient très technique quand on parle de pression atmosphérique, etc., de vélo carrément conçu spécialement pour ce challenge-là. C'est presque digne de la NASA, je dirais, mais on en arrive là. Hein.
C'est ça. C'est vraiment c'est millimétré. J'insiste sur le terme, mais c'est vraiment ça. C'est que rien n'est laissé au hasard. Rien du tout. Même par rapport aux journalistes qui étaient sur place. Moi, j'avais quelques infos parce que je connais quelques journalistes britanniques. Visiblement, il n'y a eu que 30 accréditations, je crois, sur place, ce qui est très peu, finalement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait du monde au centre, visiblement. Enfin, c'est une information que j'ai eue. Après, je ne sais pas si c'est vraiment passé comme ça le dimanche, mais en tout cas, en amont, il n'y a eu que 30 accréditations de délivrées.
Bon, eh bien, on va refermer ce chapitre mais record, tout simplement, un record du monde de l'heure pour Bradley Wiggins, qu'on retrouvera sûrement aux prochains Jeux Olympiques, hein, sur la piste.
C'est la Champions League, Nicolas, je pense, c'est pour ça. C'était aussi haut que la Champions League pour toi.
Et ouais, mais il y a pas les Anglais, par contre, à Champions League.
Ah, c'est vrai.
Donc, du moins cette fois en finale, il n'y était pas. Voilà, Bradley Wiggins, rendez-vous, j'imagine, au JO 2016, ça sera sûrement sur son dernier objectif.
Exactement, c'est son objectif affiché. Après, il faut voir si s'il est encore capable de se qualifier, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Bon. Il met un petit bémol hein, quand même, il l'affiche, mais c'est vrai qu'il reste un peu réservé sur cet objectif.
Ouais, Max, tu veux rajouter quelque chose?
Moi, j'ai l'impression que Wiggins, il va le retenter le bordel, pour parler un peu crûment. Quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui...
S'il est battu d'ici 2016, après 2016, il se retente.
Non, mais 600, justement, 600, bah, déjà, il s'était fixé un objectif de 55. Et s'il sent que voilà, toutes les conditions n'ont pas été optimales, et que peut-être lui aussi, peut-être qu'il s'est senti de pas de façon aussi optimale, voilà, je pense qu'il doit sentir que c'est possible. S'il a affiché, s'il avait un but d'une valeur de 55, c'est qu'il a certainement fait des tests qui lui ont fait porter que cette valeur-là était largement atteignable pour lui. Et comme moi, je rejoins un petit peu Max, c'est qu'à mon avis, il va se repréparer pour le refaire.
Et bien, attention quand même à ça, parce qu'on l'a précisé hier à l'antenne, c'est lui qui le disait en interview, que toutes les personnes qui avaient tenté ce record ne le retentaient pas derrière tellement c'était difficile. Donc je ne suis pas sûre qu'ils retrouvent encore les forces, la motivation de le refaire. Voilà. Ah, ça reste Wiggins, après on verra, mais voilà.
Ça reste le Bradley. Merci Claire d'être passée d'un Radio Vélo. Tu voulais rajouter quelque chose?
Merci à vous. Ben non, c'était très sympa. Voilà. Et merci. Bonne continuation, bonne fin d'émission.
Bah, bonne continuation à toi aussi. À bientôt dans Radio Vélo. Salut.
À bientôt.
Merci.
Donc c'était Claire Bricon qui répondait et puis qui discutait du moins avec nous hein, de ce record de l'heure de Bradley Wiggins. C'est vrai que les médias en raffolent un petit peu de ce record de l'heure. Nous, on a eu un peu du mal à s'y mettre, mais vu que c'était Wiggins, quand même, on a suivi ça. Ouais. Quoi.
Après, s'il y a un record de l'heure qui sent par ici, peut-être qu'au Radio Vélo passera.
Ouais, si jamais il faut sur le vélodrome de Lille-Jourdain, peut-être
c'est
on ira.
Max, si tu tentes ça, on vient. Quoi.
Écoute, ça commence à me travailler un peu, le bordel.
Hein, pour voir ce que ça peut donner. Quoi.
Ouais, c'est un petit 44 de moyenne, tu prends une bonne claque dans la figure.
44, tu penses tu peux faire, par exemple. C'est noté, le chiffre. Julien, tu as essayé?
Non, j'ai jamais essayé. J'étais un très bon contre-la-montre, mais
j'ai... On se tente ça. On part chacun au bout du virage.
Non, ça m'a
vivant vélo là.
Ouais, ça m'a jamais tenté parce que bon après quand tu fais la route piste c'est compliqué de tout faire en même temps. Mais ce type d'effort là me va bien. Tu sais ça correspond un peu au cyclocross, sauf que le cyclocross a beaucoup plus de d'un coup etc. Mais c'est sur le même type d'effort sur une heure. Voilà après c'est très particulier. Il faut le matériel, il faut une gestion derrière, il faut le préparer. Il faut voir quelqu'un qui a fait son record là, mais tout en amont il y a toute une phase de préparation. Matériel, physique, mental, c'est énorme.
Et Seb, tu fais bien les triathlons, c'est un truc méticuleux ça aussi.
Et oui, tout à fait aussi, mais c'est quand même moins technique, c'est plus sur un effort qui est beaucoup plus long. Par contre, pour avoir essayé la piste de Bordeaux il y a quelques mois, et moi en étant novice, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même c'est très difficile de tenir un effort aussi longtemps sur une piste. On n'a pas l'impression, ça semble facile, a priori.
Tu sais, déjà, quand tu fais une poursuite individuelle et que tu fais 4 km, déjà, tu t'arraches la gueule, je te garantis que quand tu finis, t'es cramé, t'es explosé. Waouh, sur une heure, il doit faire chaud là-dedans. Hein.
Les muscles tout le temps en mouvement.
J'aime le faire, mais en mode privé, quoi. J'aime le tester un jour tout seul de mon côté. Je vais me faire, peut-être en fin de saison, je vais me faire une heure, voir comment
t'inquiète pas,
je peux
mettre
faire
une caméra cachée, mais un truc.
Bah, les jours, j'irai tester la piste, hein. Jean, on avait parlé à la Ronde de l'Isard.
On organisera ça en midi Pyrénées.
Ça sera le défi Radio Vélo NC4. Seb.
Mais par contre, oui, il y a un engouement, justement, pour la piste depuis quelques mois.
C'est parce qu'on est au sec, à l'abri aussi.
Oui, c'est vrai, sur certaines pistes, oui. Mais par contre, il y a aussi le vélo fixie. Et notamment, il y a un sport qui arrive des États-Unis hein, principalement, c'est les courses sur route en vélo fixie.
Fixie,
et
ça veut dire.
Il y a déjà des coureurs qui font du cyclo-course en fixie déjà.
Pignon fixe. Exactement. Et notamment, on leur fait un petit clin d'œil. Bon, l'actualité est chargée, mais on aura certainement l'occasion de les avoir au téléphone. Il y avait justement pour la fête du vélo ce week-end, sur l'île Jourdain, une course de fixie.
Et il y a un mec qui s'est fait les étapes là.
La plus grande étape des Pyrénées en fixie.
On les avait contactés pour qu'il en parle un peu. Il avait Dany Londo comme directeur sportif, donc il devait pas y avoir que des pâtes de fruits, non, je déconne, mais en tout cas il a fait ça comme un bourrin, le mec, il a bien fait. Et bon, c'était Red Bull qui sponsorisait tout ça, hein. C'était un événement marketing.
Ouais, mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut le faire, quoi.
Mais il faut le faire.
Après, est-ce que c'est pas un petit peu le renouveau du vélo, mais est-ce que c'est pas apporter un petit peu de sang neuf à notre vélo qui va pas forcément
si bien. Il y a besoin. Il faut construire des pistes, des vélodromes couverts,
toujours,
tout ça.
Toujours demain, la fête du vélo à l'île Jourdain. Il y aura demain un cyclocross à 20h. Donc aussi, nocturne, parlons du vélodrome.
Seb, avant de finir avec le Dauphiné qu'on a jeté, où on a jeté un œil, l'actu triathlon, non, l'actu plouf aussi.
Parce exactement, que, hein. Mais rapidement, il se tenait hier un triathlon du côté de Clermont-Lérault, au nord de Montpellier, au lac du Salagou, exactement.
Bah, qui est donc dans notre future grande région, hein, Montpellier.
Dans notre future grande région, exactement. Donc, la course s'est déroulée durant tout le week-end, il y avait plusieurs formats, il y avait des triathlons X-Cross aussi, avec une formule VTT. Donc là aussi, c'est un peu le renouveau aussi dans le triathlon, avec des formats un peu différents. Mais hier, j'avais l'occasion de participer au format L, format longue distance du triathlon, où Bertrand Millard, professionnel, remporte l'épreuve en 4h20. Après, bon, tous les résultats sont disponibles sur Internet. Mais voilà, il a fait très chaud, plus de 38 degrés. C'est vrai que les organismes ont souffert. Il y a eu, malgré ça, peu d'abandon, on était 500 au départ, on est 430 à l'arrivée, je crois, donc c'était une très belle épreuve, très bien organisée par le club de Montpellier. Tous les participants ont été ravis, les jeunes également, donc c'était vraiment un très bon week-end.
Max,
moi quand je vois les bras, la couleur des bras de Seb, tellement qu'il est bronzé, on se demande s'il était vraiment très triathlon ou à la plage, hein, parce que là c'est vraiment noir de chez noir.
C'est du bon bronzage. Et en plus, tu vois, il a pas le bronzage cycliste au bras.
Il y a même le numéro marqueur.
Vu qu'il a le truc qui est bon super haut. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est également.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça c'est ça.
Que des muscles.
Kylian Lambert.
Pas encore.
Bon, voilà, un petit mot quand même pour laisser dans la minute de cette émission sur l'actu de la semaine. C'est le Dauphiné, le critérium du Dauphiné. Ça sent le Tour de France. Hein, on vous le rappelle, le décompte. Semaine prochaine, Route du Sud. Semaine d'après, Championnat de France. Et celle d'après, départ du Tour de France. Il y a quelques garçons qui seront au départ du Tour de France qui se sont donné rendez-vous sur le Dauphiné, hein, notamment les deux vainqueurs sortants. Nibali, Froome, mais aussi des garçons comme Valverde, puis des sprinteurs. C'est le cas de Nasser Bouhanni qui était venu pour enfin claquer une grosse étape. C'est chose faite aujourd'hui. Hier, ça lui a pas souri vu que c'est Keynote qui est fini juste devant le sprint du peloton. Et là, Nasser Bouhanni aujourd'hui, il a enfin levé les bras.
Facilement.
Gros soulagement pour lui. C'est vrai que le plateau sprinter n'est pas non plus celui du Tour de France.
Non, mais c'est certain.
Il y a quand même un Modolo qui sort d'un bon Giro. Samuel Dumoulin fait 2, Bossenhagen 4. Ouais, non, il faut toujours gagner, quoi qu'il arrive.
Ça fait toujours du bien moral de lever les bras. Vaut mieux lever les bras que faire deuxième. Et puis bon, il gagne facilement, hein, sur cette arrivée. Bon, l'équipe Cofidis a fait un très très gros travail. Il avait qu'à parachever ce qu'ont fait ses coéquipiers. Voilà, ça fait toujours du bien. On est à quelques jours du départ du Tour. Ça peut que mettre en confiance. Même comme tu dis, c'est vrai, oui, il n'y avait peut-être pas les meilleurs. Maintenant, voilà, ça va le mettre en confiance.
Mais en même temps, certains meilleurs sont en gros doute. Kittel n'est pas au top de sa forme non plus. Hein. Lui qui avait survolé les sprints du Tour de France en année, Seb.
Non, je disais oui, c'est rassurant à la fois pour lui, à la fois pour son équipe. On est aussi à 15 jours des championnats de France. Et puis, pour en vue du Tour de France aussi, ça peut. C'est bon pour son équipe.
Ça lui fait 4 victoires cette année. Bon. Le tour arrive.
Ouais, le tour arrive et donc ça passe forcément pour le Dauphiné pour la plupart des coureurs. D'autres ont choisi le Tour de Suisse, donc on va suivre ça également de près. Hein.
Et la Route du Sud aussi, parce qu'il y a quand même un gros plateau sur la Route du Sud.
L'année prochaine.
Un plateau exceptionnel, on la présentera l'année prochaine, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a, il y a Contador, il y a Quintana, il y a Vaucler, il y a Loïc Chetou, non, il y a plein de monde qu'on connaît.
L'armée de terre avec Juan Barbas, peut-être.
Et voilà, l'armée.
Julien Loubet,
voilà. qui s'est vachement.
C'est que les Gadissi, là.
Qui s'est entraîné, mais ouais, mais c'est important les Gadissi aussi, Max. Non, vraiment un très gros plateau. Peut-être Alexandre Géniez, ça se pourrait.
On ira faire un tour au port de Balès.
Voilà.
Juste une petite info, qu'on parle résultats et courses. Il y avait ce week-end, il y avait les championnats Midi-Pyrénées de piste à Tarbes, vitesse, etc. Donc tous les résultats, vous pouvez retrouver sur le site de la Ville Mur Cyclisme. Max,
championnat régional piste en même temps que championnat route.
C'était samedi.
C'était oui, mais bon, c'est le même week-end.
Mais ça n'encourage pas à faire de la piste.
On peut pas décaler d'un week-end comme ça.
C'est le calendrier qui le veut comme ça. Donc Voilà, il y avait des cyclos sportives, il y avait la Marion Clignet samedi, il y avait pareil, il y avait l'Albigeoise dimanche.
Donc les dates Marion Clignet qui s'est encore une fois très très bien déroulée, hein, très grosse organisation ça, Julien.
Ah ouais, un petit coucou à Benji qui était sur la pied d'œuvre toute depuis quelques mois et ces jours-ci. Voilà, c'est vrai que le calendrier est pas forcément facile, mais bon.
En tout cas, dimanche prochain, une très belle course en Midi-Pyrénées, les Boucles du Tarn, organisées par le club de Mazamet.
Il y aura le samedi d'abord la montée de Pic de Nord, la montée du Pic de Nord, donc le samedi et le dimanche.
Le vélo avait fait un petit direct, des petites vidéos, je me rappelle, il y a 3-4 ans.
Et, c'était en 85, je crois.
Ouais,
en 85.
J'avais 12 ans,
je faisais 3 ans.
Non, mais il y a des belles courses.
Il y a des belles courses.
Mais il faut organiser tout ça correctement, quoi. Pas faire un peu n'importe quoi. Prendre exemple peut-être sur des régions où ça se passe très bien, qu'il y a 100 coureurs au départ.
Eh ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai que les grandes régions, Max, hein, on en débattra plus tard dans Radio Vélo. Gros programme, ben, jusqu'à la fin de ce mois de juin, avec, ben, bien sûr, pour la dernière émission du mois de juin, la présentation du Tour de France.
Oui, petit, il y a les Boucles de la Mayenne aussi, qui était une course pro ce week-end, juste à côté de là où j'ai couru, avec la victoire du tout jeune, si je ne me trompe pas, Turgis, ils sont plus trop dans la famille,
Anthony Turgis.
Qui claque une étape et du coup il a claqué le général à l'arrivée. Il est tout jeune, hein, donc là, une famille Turgis très très prometteur.
Qu'est-ce que tu fais le week-end prochain, Max?
Ben, les Boucles du Tarn, je vais courir ici.
Les Boucles du Tarn.
Actuellement, j'ai pas couru par là, quoi.
Et le week-end prochain, il y aura le championnat régional des écoles de vélo, épreuve qualificative pour le championnat de France, le trophée de France des écoles de vélo qui se déroulera à Saint-Étienne-le-Remiremont dans les Vosges.
Encore un beau rendez-vous, Seb, toi?
Repos.
Il y a un triathlon du côté de Revel, là, non?
Exactement, il y a un triathlon du côté de Revel le week-end qui arrive sur des formats SM.
Allez, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées de sujets, vos idées de débats, de questions, d'invités sur le Twitter, @radiovelo.
Vivant vélo, n'oubliez pas.
Comment?
Vivant vélo.
Vivant vélo, l'application très sympa de nos amis d'AG2R. Et puis, bien évidemment, le podcast sur radiovelo.fr et la vidéo de nos amis des médias Pitchoun qui nous ont envoyé.
Raquel a fait un petit coucou.
On fait un petit coucou, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des médias Pitchoun qui était avec nous en studio la semaine
dernière. Prochaine pour présenter la Route du Sud.
Ça marche. Ciao et bonne semaine
à tous.
Bonne semaine, ciao.
Toujours suivi les mêmes schémas, car la route tourne, car la route tourne.